On m'a demandé de vous parler un petit peu. On a vu ces tremblements de terre, ces typhons, ces cyclones, ces catastrophes. On est toujours confronté un petit peu à ce mal, à cette souffrance. Et la question un petit peu, c'est de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment comprendre tout ça? Quel regard porter sur ces drames, la souffrance, le mal dans ce monde comme ça? C'est vrai que il y avait ce poème de Jacques Prévert. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan, elle tourne la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Et elle s'en fout, la terre. Elle tourne et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne, elle n'arrête pas de tourner et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il donc ce sang répandu, le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement et le sang des hommes qui saignent de la tête dans leur cabanon et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit. Et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau, et la mère qui crie et l'enfant qui pleure. Et le sang coule, la terre tourne, la terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Je trouve que c'est un poème qui pose les vraies questions, le drame de l'humanité, la souffrance de l'humanité et les difficultés du monde. Et c'est vrai qu'on se dit, mais qu'en est-il comme ça? Alors, il faudrait peut-être prendre à deux niveaux. D'abord, il y a un grand silence devant le mal, la souffrance. Il y a un grand silence devant la personne qui souffre et qui peine. Je crois que c'est la première chose qu'il faut respecter. Il y a quelque chose qui relève du scandale. Et pourquoi le mal est-il si scandaleux? Pourquoi le mal nous scandalise-t-on? Vous savez que la première attitude de l'intelligence humaine, quand elle saisit le monde, l'intelligence est faite pour comprendre le monde, pour voir le monde, la première attitude, c'est l'admiration. Et l'admiration est suscitée par la plénitude, par le bien, par le beau, par tout ce qui est merveilleux. Et donc, on admire. Et puis ensuite, il se trouve qu'on peut s'indigner ou se scandaliser. C'est la deuxième attitude de l'intelligence. Quand l'intelligence découvre que ce qui devrait être bien, beau, grand, eh bien, ne l'est pas. Il y a quelque chose qui cloche, on se rend compte qu'il y a un manque qui est là, qu'il y a un creux. Et je donne un jour une conférence avec un Français qui avait écrit un livre « Indignez-vous ». Et alors ça a fait le tour du monde, ça a été traduit en plusieurs langues, il est passé à toutes les télévisions et tout, en demandant une sorte d'insurrection face au drame de l'humanité. Puis dans la conférence où j'étais, je dis, vous êtes vraiment audacieux d'oser inviter le monde à s'indigner avant même de l'avoir invité à admirer. Parce que s'il n'y a pas une admiration première, l'indignation ne peut être que violence et destruction. Et elle peut même tout détruire, parce qu'on va être focalisé sur le mal, et le mal donc détruit tout. Alors que l'admiration, eh bien, elle montre le primat du bien. Philosophiquement, vous savez, le mal n'est pas quelque chose, c'est la privation d'un bien qui nous est dû. Si on est malade, il nous manque le bien santé. Si on est triste, il nous manque le bien joie. Si on est mort, il nous manque le bien vif. Enfin, jusque-là, voyez-vous. Donc, il y a toujours un bien qui est premier. Et ça, c'est quand même un sujet d'admiration, justement, que le bien prime. Le mal ne peut être que la privation de ce bien. Alors bien sûr, ça fait souffrir, et là, ça devient très existentiel. On n'est pas que dans une privation en ce moment-là de philosophie, qu'on est dans l'existence, et on dit bien qu'on a quelque chose. On est malade, on est triste, on l'éprouve, mais cette tristesse, cette maladie, comme la mort, appelle à la plénitude de la vie, à la plénitude de l'amour, à la plénitude de la joie. Et donc, ça c'est déjà une des raisons premières de l'espérance, c'est que le bien précède le mal. Quand bien même on pourrait voir parfois la grandeur du mal comme ça se répandre sur la terre, on se dirait, on est obligé de dire que c'est parce qu'il y a un bien qu'on peut être scandalisé. Hein, voyez-vous, si c'est parce qu'on fait tous l'expérience, si on se réveille en bonne santé le matin, si on se réveille comme ça, si les choses vont bien, on ne s'étonne pas du tout. Quand on a l'électricité qui fonctionne, ça paraît normal. On appuie sur le bouton, ça fonctionne. C'est quand ça fonctionne pas qu'on se dit pas « Ah, c'est incroyable, ça fonctionne, on paie sur le bouton ». Si vous les installez vous-même, peut-être ça vous étonne. Mais autrement, c'est quand on se dit « Mince, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ?» Hein, vous voyez, donc immédiatement, la réaction, c'est quand le mal est là. Alors...